When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
C'est moi Simba, c'est moi le roi du royaume animal. Salut, c'est Louise Petrouchka.
Et salut, c'est Clément.
Et vous écoutez bien le son d'après. À toutes et à tous, je suis Louise Petrouchka et je suis en compagnie de Clément. Bonjour, le meilleur binôme de la planète.
Salut Louise Petrouchka.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Bienvenue dans le son d'après. Nous allons écouter quatre nouveaux artistes. On est ravis d'être ici. Il fait beau, il fait chaud, ça fait du bien. On attendait ça depuis 1000 ans.
Longtemps, l'été approche, voilà.
Des petits épisodes.
Secrets qui arrivent. On vous prépare des petites choses dont on est assez content.
On est bien content.
Je pense qu'on va s'amuser.
Et on va bien s'amuser. Mais avant ça, comme d'habitude, je vous rappelle les petites recommandations d'usage. Puisque nous allons parler de quatre artistes, de quatre nouvelles personnes, on va citer des noms d'albums, on va citer des noms de labels, on va citer plein de noms. Si vous voulez retrouver toutes ces références, vous pouvez aller dans les notes du podcast, elles seront toutes inscrites correctement, bien rangées dans l'ordre et tout, c'est super. On a aussi une playlist qui s'appelle Le son d'après sur les plus grosses plateformes de streaming où on ajoute à chaque fois les nouveaux morceaux. Donc là, il y aura les 4 morceaux dont on vous parle aujourd'hui. Si jamais vous êtes abonné à ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify, à laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir, on est toujours ravis de vous lire. Et puis, si vous voulez nous suivre pour ne louper aucun nouvel épisode et pour voir nos petites vidéos, un peu nos petits Reels et nos TikTok, vous pouvez du coup nous suivre sur TikTok, sur Twitter et sur Instagram, @leçondaprès, tout attaché, c'est facile et c'est limpide.
On nous trouve facilement et on s'amuse bien aussi là-dessus.
Oui, c'est super. Et donc maintenant que j'ai fait toutes ces petites recos, je pense qu'on peut inaugurer cet épisode. Inaugurer, non, pas du tout. Commencer simplement l'épisode avec Clément.
Et ça sera déjà pas mal parce que moi j'arrive aujourd'hui avec une nouvelle découverte en fait. Quelqu'un là qui était en fait dans mon radar depuis un petit moment, mais j'ai vraiment découvert sa musique il y a quelques jours, quelques semaines. C'est assez proche. Je vous parle d'une artiste franco-iranienne du nom de Rahil Jamalifar, de son nom de famille. Rahil, je la découvre du coup il y a quelques mois parce qu'elle est fraîchement signée sur le label Big Dada, branche de Ninja Tune dont j'ai déjà parlé ici. Elle est originaire du Michigan avant de s'installer à Brooklyn où elle cofonde avec Layana Lynch, qui n'est pas la fille de David Lynch, le groupe de surf garage du nom de Habibi. Ensemble, ils sortent 2 albums avant de se séparer. Et aujourd'hui, du coup, Rahil opère en solo. Elle a sorti d'abord, il y a quelques mois, du coup, un premier EP composé de 4 morceaux de reprises. Et là, elle a sorti, il y a quelques semaines, son premier album du nom de Flower at Your Feet, qui mélange en fait pas mal de sonorités qui me parlent bien. J'en dis pas plus pour l'instant. Je vous propose qu'on écoute ensemble l'un de mes morceaux favoris de l'album. Le morceau s'appelle Football. On se refait pas. On écoute et je vous raconte un peu ce qui me plaît musicalement dans ce disque. Field of highest victors, he ties his lace, kiss the ground and skies above him, the highest praise. No one else can stand beside him, his courage 10 feet tall. Thank you. Raïl avec son morceau Football. Bon, je pense qu'il n'y a pas du tout l'accent, c'est pas à mon avis l'esprit non. du morceau, mais qu'est-ce que tu en as pensé, Louise?
Ben, j'ai trouvé ça très cool.
Ouais.
Ça me rappelle, alors bon, vraiment, on va être sur des références musicales un peu éloignées, je pense, mais je sais pas pourquoi, il y a un côté Portichette dans ma tête.
Ah, bah c'est
un
intéressant.
Un peu trip-hop, tu vois.
Et ben, merci, parce que trip-hop, tout à fait, ça j'allais en parler. Mais notamment, moi je sais qu'il y a quelque chose dans la voix.
Ouais.
De la chanteuse où j'essayais de chercher. Il y avait quelque chose. Ouais. Je me disais, sa voix me fait penser
vaguement,
à certaines
ouais.
choses que j'ai pu écouter dans le passé. Portichette, je trouve que c'est une bonne ref. Moi, j'ai pensé aussi un peu à Agar Agar dans le traitement de la voix. Un
je
peu.
Pas toujours pas Agar Agar.
C'est, oui,
ça fait
50 c'est
fois que tu le.
Que je les mentionne.
J'ai toujours pas écouté.
Mais du coup, la chanteuse a quelque chose, une sorte de côté un peu métallique comme ça dans cette voix.
Ouais.
Je trouve qu'ils pourraient s'en rapprocher. En tout cas, moi, c'est, et puis c'est du coup, c'est des toutes les rêves que tu, enfin, qu'on vient de citer, sont des choses que j'aime bien.
Ouais.
Donc c'est, ça participe, je pense, grandement. À...
Ouais, moi, j'ai trouvé ça chouette. Ça donne envie d'écouter la suite, quoi. Parce que du coup, tu disais, elle a sorti un album de reprise, c'est ça?
Il y a eu d'abord, c'est ça, 4 morceaux, un EP
okay.
Qui s'appelle Sun Songs.
Ok. Et ah, et voilà. Elle a sorti un autre album.
Et là, voilà, et là, elle a sorti il y a 2 semaines, je crois, 2-3 semaines, le premier album. Et ce morceau est extrait de l'album.
Super.
Et du coup, ouais, moi, comme je te disais, bah, j'aime bien dans le morceau déjà les deux parties. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cet ADN, comme tu l'as dit, très trip-hop.
Ouais.
Moi, je sais que c'est la musique que j'ai beaucoup écoutée, notamment à la période où j'étais en école de cinéma.
Ok.
Ouais.
Ça, je
où, bah, les Wax Taylor, par exemple.
Ah oui, okay.
Tu vois ce type de, ouais. de groupe un peu que j'ai beaucoup écouté et puis à la deuxième partie plus mélodieuse, plus ciel bleu. Et le truc, je pense vraiment sur lequel j'accroche avec ce morceau, il est fort possible que le titre de ce morceau en l'occurrence joue un rôle et modifie ma perception du morceau, mais en fait musicalement ça me renvoie au football et à mon enfance, adolescence, parce que je trouve que ce morceau m'a ramené à des morceaux en fait de la bande originale, par exemple du documentaire classique de ma filmographie Les yeux dans les bleus.
D'accord.
Sur lequel on retrouvait aussi bien du Roudoudou, du Madonna, du Massive Attack,
du
R Roudoudou, ça, avec le morceau Peace.
Je connais pas du tout.
On Quiet Earth.
C'est un super nom en tout cas.
Tu connais, je pense, forcément okay. le morceau. Je mettrai un extrait
Peace
maintenant.
And Tranquility to Earth.
Exactement. Extrait. Et du coup, ouais, sur cette bande-son, il y avait aussi du R. Et en fait, il y a plein de petites sonorités par-ci, par-là, sur le morceau, qui m'ont fait penser, tu vois, j'ai l'impression à tel morceau, et cette ambiance football, avec l'été qui arrive, le beau temps, tout ça, ça m'a donné envie, en plus, d'une petite Coupe du Monde. Alors, on n'en est pas du
football.
Tout là, mais ça m'a... En fait, voilà, tu vois, c'est ce type d'ambiance qui m'a parlé. Et en fait, même pour prolonger sur le foot, ça m'a ramené aussi à d'autres bandes-sons qui ont percé mon adolescence. C'est celle des jeux FIFA.
Ok.
Et... je pense que ce morceau serait un très bon morceau pour le FIFA à venir. Donc, EA Sport, si vous écoutez ce podcast, engagez-moi hein, pour faire la bande-son. Il n'y a pas de problème, je ferai une sélecta aux petits oignons, vraiment.
En plus, vous avez du budget, donc je pense que ça peut être intéressant.
Ça m'intéresse et je trouve en tout cas que ce morceau, je l'imagine totalement dans le jeu. D'ailleurs, pour ceux qui sont comme moi un peu nostalgiques de ces morceaux, je vous recommande rapidement l'article de Combini qui a fait un top 15 des morceaux iconiques de FIFA. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que j'ai replongé, il y a vraiment ceux que je me souviens avoir identifiés au moment de la Coupe du Monde 98, enfin toutes ces périodes-là. Et il y en a que, quand je les réécoute, j'ai un vrai amour nostalgique de les réécouter. Et autant ceux des jeux que j'ai pas pratiqués, je trouve les titres éclaté au sol. Donc c'est à se demander en fait ce que j'aurais pu penser, tu vois, des morceaux.
Ah oui.
Si je ne les avais pas écoutés à l'époque, c'est assez drôle. Mais voilà, donc en fait, je sais pas, ça m'a tout simplement ramené à une ambiance de football. Ça me parle. Je trouve en plus à côté de ça que le morceau est très réussi. Et pour revenir à l'album, surtout, c'est vraiment ce que j'appellerais un grower. C'est-à-dire que l'album, je le sens, il grandit en moi au fur et à mesure des écoutes. La première écoute que j'ai eue, elle était sympathique, mais j'avais pas forcément retenu, tu vois, grand chose. Et puis, j'ai eu envie d'y retourner. Et en fait, voilà, ça revient de plus en plus. Et musicalement, c'est très cohérent, tout en parvenant à mélanger à la fois de la pop, du rock alternatif, un peu psyché, du trip-hop, des touches de jazz aussi par-ci par-là. Bref, c'est très chouette. Et je trouve que c'est en plus totalement adéquat avec le retour des beaux jours. Donc, pour prolonger l'écoute, je vous recommande ce premier album, Flower at Your Feet. L'EP, une nouvelle fois, je le répète, il s'appelle Sun Songs, que j'avais écouté rapidement, plus je pense à l'époque, mais ça m'avait pas plus interpellé que ça. Et à la réécoute, je trouve vraiment ça très bien.
Ok.
Donc voilà, donnez-lui une chance. Et je vous conseille aussi l'album Anywhere But Here de Habibi, du coup, son groupe d'avant, qui est en fait vraiment du très chouette surf garage. Et c'est pareil, je trouve que c'est typiquement le genre de musique que j'ai envie d'écouter pendant l'été. Donc,
très bien.
Voilà, ça fait quelques recos, je pense.
Parfait.
Nickel,
pour les prochains mois.
Pour le soleil, exactement.
Trop bien.
Tout à fait.
Et bah, excellent.
On peut passer au son d'après.
De mon côté, aujourd'hui, je m'attaque à deux pontes de la musique. Ça va vraiment être des petites dissertations, ces chroniques, voilà. La première, c'est une artiste de folk argentine qui s'appelle Mercedes Sosa. Est-ce que ça te parle, Clément ?
Pas du tout.
Pas du tout, très bien. Ben, moi, personnellement, je l'ai découverte il y a à peine un mois ou deux grâce à mon prof d'espagnol, Louis, que je remercie, car il a très vite compris que ça allait être utile de m'envoyer de la musique pour me maintenir dans l'entrain de mon apprentissage.
Ah, c'est une bonne idée, ça.
Et donc, il m'a envoyé une playlist un peu avec des chanteurs, justement, de folk d'Amérique du Sud. Et Mercedes Sosa, c'est le premier titre qu'il y a sur cette playlist. C'est une grande, grande, grande artiste argentine, mais elle est même reconnue partout en Amérique du Sud comme une artiste militante politique. Et en fait, j'ai découvert en faisant cette chronique plein de choses hyper intéressantes sur cette dame. Voilà, moi j'étais juste en mode « Oh, j'ai bien aimé cette chanson !» Et puis en fait, après j'ai fait « Ah, MDR, en fait, il y a mille trucs à raconter ouais. !» Donc, désolée, j'espère que ça va pas être trop didactique et trop « Voici l'histoire de cette femme qui était super !» Mais vraiment, « Voici l'histoire de cette femme qui était super !» alors, pour vous raconter un peu, elle vient du nord-ouest de l'Argentine, de Tucumán, qui est vraiment à côté de la cordillère des Andes. Enfin bon, c'est long, hein, la cordillère des Andes,
ouais,
mais voilà.
Et
elle a grandi là-bas avant d'épouser son premier mari, Oscar Matus, qui est lui aussi un musicien, avec qui elle déménage à Mendoza, qui est un peu plus au sud, à la fin des années 50. Donc elle est née en 35. Ensemble, ils participent à créer un mouvement populaire de chansons populaires qui s'appelle Nuevo Cancionero, qui crée un peu une rupture avec le folklore argentin assez classique, qui jusque-là était plutôt apolitique, qui parlait un peu voilà, des paysages, machin. C'était très, très joli. Mais eux, ils se positionnent vraiment comme des conteurs, des chanteurs de musique pour le peuple qui écrivent vraiment l'histoire du peuple, leurs rêves, leurs luttes, leurs espoirs, etc. via leur art. Et donc, il faut savoir qu'elle, elle n'a pas spécialement écrit de chansons. Par contre, elle a mis en chanson beaucoup de poèmes et elle a repris beaucoup de chansons qui, grâce à elle, sont devenues très, très populaires.
Okay.
Elle était entourée de plein de ses amis chanteurs et poètes, tous communistes, dans des pays où être communiste ne faisait pas bon vivre, hein, on ne va pas se mentir. Et donc, notamment le titre aujourd'hui que je vais vous passer avant de vous parler un peu plus de sa vie, parce que sinon, ça va prendre 1000 ans avant de vous faire écouter de la musique. Le morceau que je vais vous passer, c'est un de ses plus grands, l'un des plus célèbres en tout cas. Il s'appelle Gracias a la Vida et c'est une reprise d'une chanteuse chilienne qui faisait partie du même mouvement qu'eux, qui s'appelle Violeta Parra, qui est morte assez jeune parce qu'elle s'est malheureusement suicidée. Et donc du coup, c'est un titre que Mercedes Sosa a repris et qui a touché vraiment beaucoup, beaucoup de gens. Je vous propose qu'on l'écoute et puis après, je vous parlerai un peu plus de la vie de Mercedes Sosa.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
C'était Gracias a la vida de Mercedes Sosa. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Clément ?
Écoute, c'est trop bien que tu ramènes ce genre de musique. Vraiment.
C'est avec plaisir.
Je te remercie parce que bah, c'est juste une voix, une guitare, c'est oui. juste beau, c'est juste pur. T'as envie de t'asseoir, ouvrir tes écoutilles et fermer ta bouche. Bah, c'est vraiment. Je trouve que, ouais, tu vois, il y a juste à. Juste
une...
à écouter. En
fait. Ouais, il y a une puissance dans l'émotion, ouais. dans la manière dont elle délivre cette chanson qui est assez, assez folle. Et je pense que c'est ça qui m'a touchée dès la première écoute. Moi, j'avoue que j'ai cliqué sur play dans la playlist. J'ai fait ah oui, bah ça c'est super, ça, c'est trop bien. Ah, ça, je vais aller écouter le reste. Ouais. Et en fait, ce que je me faisais la réflexion, c'est rare aujourd'hui que j'écoute des morceaux qui sont aussi simples en termes de construction. C'est-à-dire, en effet, tu le disais, il y a une guitare, une voix et c'est tout.
Et je pense que ça se fait moins.
Je pense que voilà, c'est ça.
Ça se fait moins, ou en tout cas certainement moins dans les sphères, on va dire du plus ou moins mainstream. Tu
oui,
vois,
voilà.
À part des gens qui enregistrent tout seuls chez eux avec leur guitare ou leur quel que soit leur instrument, tu vois.
Oui, puis je pense qu'on a aussi une habitude d'écoute
ouais.
qui est plus tournée vers ouais, les musiques plus électroniques. Enfin, en fait,
plus complexe.
Ouais, c'est ça. En fait, comme maintenant, il y a tellement d'outils à disposition, je pense qu'il y a aussi moyen de jouer avec plein de choses. Et du coup, ça m'a fait du bien, là, de me reposer sur... Oui, quoi.
Et puis, en plus, je pense qu'au-delà même de tous les, t'sais, toutes les armes, enfin, tous les instruments qu'on peut avoir pour délivrer une... Tu vois, pour que ta voix... Ouais. Et à elle seule porte un morceau aussi puissant, c'est pas donné à tout le monde.
Ouais.
Soyons honnêtes. Oui, autotune, pas autotune dans tout ça.
Je sais plus qui c'est... disait ça. Où est-ce que j'ai lu ça? Mais qu'en gros, le truc le plus dur à faire dans la musique, c'était de faire simple.
Mmh.
Parce qu'en fait, plus tu fais simple, plus il y a de.
Je pense que c'est le cas dans beaucoup d'art,
ouais,
de
ouais,
manière générale.
Ça.
Mais
ouais.
tu sais, c'est le simple qui va droit au cœur, quoi.
Ouais.
Et ça, oui, il est pas évident. Et du coup, chanter de cette manière-là. Et justement, tu vois, il manque rien dans le morceau quand tu l'écoutes.
Mmh.
Et pourtant, enfin, parce que tout est là.
Ouais.
Tout est là grâce à cette guitare et cette voix. Donc, ça, c'est fort.
Et de mon côté, ça me rappelle un peu ma grand-mère. Alors, aucun rapport, ma grand-mère n'a jamais chanté avec une guitare. Mais en fait, j'ai souvenir que ma grand-mère, elle a fait des voyages en Amérique du Sud, notamment au Chili. Et elle était assez passionnée par toute la culture d'Amérique latine et aussi par l'Espagne. Et en fait, je me suis rappelée en écoutant ça plus tard que ça me rappelait Luz Casal, qui est une grande chanteuse espagnole, que j'ai souvenir que ma grand-mère écoutait beaucoup. Et pareil, qui avait un peu ce côté, une voix immense. Et donc, du coup, derrière, t'avais quasiment besoin de rien pour l'habiller et pour suivre sa musique, parce que c'était super. Et du coup, ça m'a un peu rappelé ça. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu un attachement assez rapide à ce morceau.
Ouais, je comprends.
Et donc, je vous disais, donc c'est Mercedes Sosa, c'est une icône dans toute l'Amérique du Sud par les chansons qu'elle chante, comme celle-ci, mais aussi comme une autre chanson qu'elle a reprise d'un monsieur qui s'appelle Leon Gieco, qui est un artiste argentin. La chanson s'appelle Solo le pido a Dios et c'est devenu vraiment des hymnes populaires et protestataires contre les pouvoirs en place. Et ce qui est intéressant avec la vie de Mercedes Sosa, c'est qu'elle a commencé à chanter très très jeune. Elle raconte elle-même, je crois, dans son autobiographie, qu'elle ne sait pas si elle a commencé par apprendre à chanter ou à parler. Et elle est née en 35 et c'est en 65 vraiment que sa popularité commence vraiment à grandir. Elle monte en fait sur la scène du plus grand festival de musique folklorique d'Amérique du Sud aujourd'hui. Alors à l'époque, je ne sais pas si c'était le cas vraiment, mais c'était un immense festival déjà, qui se passe à Cosquín. Et c'est le chanteur Jorge Cafrune, j'espère que je ne le prononce pas trop mal, qui est un autre ponte de la musique argentine, qui l'invite sur scène le temps d'un morceau, à l'insu de l'organisation, ce qui était important, puisque l'organisation de l'événement était plutôt conservatrice, et du coup plutôt contre ses idées de gauchiste. Et elle est accompagnée seulement de son bombo, qui est un gros tambour rond des Andes, qui est habituellement pas joué par des femmes, donc il y a plusieurs choses qui se passent ce jour-là, et elle chante le poème Canción del Derrumbe Indio, chanson de l'effondrement indien, si je traduis à peu près, d'un monsieur qui s'appelle Fernando Figueredo Iramen, je ne sais pas comment on prononce. Et c'est un texte qui parle de la colonisation et des pertes subies par les peuples autochtones, donc c'est hyper fort. Et c'est un des moments les plus importants de sa carrière, puisqu'elle devient quasi immédiatement l'une des icônes du mouvement Nuevo Cancionero, et elle se produit partout en Argentine. Sauf que politiquement, c'est compliqué. Une dizaine d'années plus tard, il y a la dictature qui s'installe en Argentine. Il y a un coup d'État en 76. Mais en fait, dès 75, ça commence à être un peu compliqué. À chaque fois qu'elle se produit sur scène, elle reçoit des menaces de mort, elle reçoit des menaces de bombes. Et en fait, après la dictature, carrément va interdire ses chansons à la radio. Et on finit par simplement l'interdire de représentation, quoi. Et elle est très attachée à son pays, très attachée à sa culture et tout. Et elle refuse de partir de son pays jusqu'en 79. Où elle se fait carrément arrêter et embarquer alors qu'elle est sur scène en train de donner un concert et tout le public présent est arrêté aussi.
Wow.
Donc on est sur vraiment des...
Ah ouais.
Il y a vraiment en fait toute cette période là en Amérique latine, il y a des dictatures un peu partout, c'est pareil, moi j'ai lu des histoires assez horribles au Chili sous Pinochet, il y a un des artistes de chansons folkloriques pareil qui était dans le même mouvement que Mercedes Sosa. Qui, lui, s'est fait assassiner froidement, simplement, par les militaires.
Ah oui, t'avais...
Victor Raja.
Ouais, ça me dit un truc. Je sais que j'avais entendu parler de cette affaire-là via un chanteur de variété, je ne sais pas si c'est français ou en tout cas francophone, qui s'appelle Julius Bocarn.
Je connais pas.
J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais... et qui chantait, justement, je crois, l'histoire de ce mec-là.
Okay.
En tout cas, l'assassinat de ce mec-là à l'époque de Pinochet.
Donc, et lui, du coup, il est vraiment mort en martyr et tout. Et pour vous dire la répression qu'il y avait à l'époque autour des artistes qui chantaient. Et on sait tous et toutes, on a plein d'exemples de à quel point la musique est hyper importante dans toutes les luttes contre le pouvoir et pour les droits de manière générale. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça hyper, hyper touchant. Que tu vois, genre, elle est en résistance, quoi. Elle refuse de partir de son pays, donc jusqu'à ce jour-là où elle s'exile en Europe, d'abord à Paris, puis ensuite à Madrid, puisque la barrière de la langue en France était un peu compliquée. Et c'est une période hyper compliquée pour elle, notamment parce que je vous ai pas raconté sa vie perso, mais elle s'est séparée, puis elle a eu un deuxième mari, et son deuxième mari est décédé. Ensuite, il y a son guitariste préféré avec qui elle jouait tout le temps, qui est décédé aussi malheureusement d'une maladie, et donc du coup, ça fait beaucoup, tu vois, à encaisser.
Ouais, on peut dire ça. Ouais.
Et elle finit par tourner en Europe, mais aussi surtout en Amérique du Sud, où c'est une véritable star, vraiment. Elle joue dans des stades à guichets fermés, c'est des milliers de personnes qui viennent la voir chaque soir et tout, et elle est en mode, mais je suis à côté de mon pays et je peux pas aller y jouer, c'est fou quoi. Et en 82, elle revient en Argentine pour jouer non pas un, non pas deux, mais 13 concerts d'affilée. Dans un théâtre de Buenos Aires, alors que la dictature est encore en place. Mmh. Mais en fait, j'ai écouté tout un documentaire que je vous recommanderais, mais en gros, ils expliquent dans le documentaire qu'il valait mieux la laisser jouer que de réprimer. Sinon, ça allait être pour... Mais c'est, en gros, ils expliquent que c'est déjà un peu la fin. Je crois que la dictature se finit en 83 par... Bon, elle est remplacée par un autre truc compliqué qui n'est pas vraiment de la démocratie. Mais en tout cas, c'était un peu la fin de la dictature qu'il avait, elle, oppressée pendant des années, en tout cas. Et je sais pas, en fait, ce genre de récit, moi, en écrivant et en lisant un peu tous les trucs, tous les articles que j'ai lus, ça m'a vraiment hyper émue et hyper touchée. Et j'étais trop contente, du coup, d'avoir, juste grâce à une chanson, découvert une artiste.
Ouais. Et une sacrée histoire, quoi.
Une sacrée histoire. Et puis, en fait, aussi, d'avoir pu en apprendre plus autant sur la musique argentine que sur l'histoire politique, en fait, parce que, bah, en vrai, j'y connais rien. Et du coup, ça m'a fait, voilà, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien d'écouter tout ça. Et je trouve ça... ces chansons hyper apaisantes et en même temps je sais qu'elles ont un message hyper fort et pour prolonger l'écoute je vous conseille notamment d'aller écouter Canciones con Fundamento, je vous mettrai bien sûr dans les notes du podcast, où en fait chaque chanson parle de la réalité des travailleurs argentins et c'est un des albums qui est considéré comme étant un peu le manifeste du Nuevo Cancionero où elle chante la réalité en fait des gens du quotidien quoi. Et bien sûr, je vous conseille d'aller écouter Mercedes Sosa en Argentina, qui est l'enregistrement live compilé de ses différentes prestations de 82, de son retour à Buenos Aires. Et puis, je vous conseille d'aller écouter le documentaire audio de France Culture qui s'appelle Toute une vie, qui est sur Mercedes Sosa, qui m'a beaucoup aidée pour écrire cette chronique parce que sinon c'était compliqué de compiler toutes les informations. J'étais là, ouais, j'apprends beaucoup de choses. Donc, c'est un documentaire de Amélie Perrot. Bah, je parle en espagnol. C'est un documentaire d'Amélie Perrot et Nathalie Salle et ça m'a vraiment beaucoup touchée parce qu'il y a sa petite fille qui parle, il y a son ami guitariste qui l'a accompagnée en 82 sur les 13 concerts, etc. Et du coup, c'est hyper, hyper bien fait et en une heure, on apprend beaucoup de choses sur cette dame. Donc voilà, c'était Mercedes Sosa dans le son d'après.
Parfait, et ben, ça me donne envie d'aller aussi en écouter beaucoup plus.
Super, et bien on passe au son d'après.
Comme je te disais en antenne, Louise, en ce moment, j'avoue que j'écoute beaucoup d'artistes en fait dont on a déjà parlé ici dans le son d'après. Ces artistes en ce moment sortent plein de bons projets. D'ailleurs, on en parle régulièrement dans nouveau format vidéo Instagram, TikTok. Ouais. Donc suivez-nous au max.
Au max.
Au milieu en tout cas de ces artistes là, du coup, ça me fait plaisir d'écouter leurs nouvelles sorties. Eh ben, ils sont rares mais gros coups de cœur. Oui, mais non, parce que justement, l'artiste que je vous ramène, là maintenant, je l'écoute en boucle depuis quelques semaines, et ça va te faire plaisir, puisqu'il nous vient de Nantes.
Oh yeah!
Il s'appelle Ipen De Go, et il fait du R&B comme ça fait bien plaisir. Je l'ai découvert grâce à Nifa sur Camino TV, qui en tressait les éloges, et effectivement, c'est vraiment très très bien. Il est signé sur Mezwed Records, le label de Tunisiano, ancien Sniper. Oh. Et en fait, pour lui, j'ai l'impression que tout s'est un peu accéléré au début de l'année. D'abord en janvier, l'humoriste Inès Reg le découvre, elle flash sur sa musique et décide de faire un appel en story sur Instagram pour le convaincre de venir performer lors de son Olympia. Là, il se prend une rafale de messages, donc ni une ni deux avec son manager. Il décide de venir, même si, tu vois, dans les messages, il y avait carrément des gens qui lui proposaient de lui payer le billet de train, tu vois. Donc, très drôle. Il débarque là-bas, il fait son show et il se retrouve déjà à faire un Olympia, alors qu'à l'époque, il avait juste sorti quelques morceaux.
Okay.
Là, il vient de faire le Zénith de Nantes lors du Boomin Fest, où il a partagé l'affiche avec des Tiakola, avec des Bébé Jacques, enfin... Okay. Voilà, pas mal pour un artiste de 25 ans qui a sorti, début avril, son premier EP professionnel. L'EP s'appelle Mocha, un projet doux et amer, comme le café, comme il aime le décrire. Et je vous propose qu'on écoute ensemble un extrait, celui que je pense que peut-être vous préférez, mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de morceaux que j'aime bien. Ça s'appelle « Tous les soirs, tu m'en diras des nouvelles ».
Yeah, on s'évite, mais on s'aime. Et j'hésite à t'appeler. Allô. Tous les soirs. Yeah. Hey. Tous les soirs. J'ai pas besoin de le cacher, j'ai envie de te casser le dos. Tout ça me manque et je me sens comme un crackhead. Il faudrait me filer ma dose. J'aurais pu aller voir d'autres fesses, mais je sais ce que je veux. Baby, moi je fais ce que je peux. C'était pas dans ma tactique de t'avoir en tête tout le temps. Mais depuis que t'es sorti de ma ville, on vit full camp. Je crois que je t'ai menti quand je t'ai dit vouloir être seule. J'avais juste envie d'elle. Mais au fond, je peux pas le faire si c'est pas toi. Donc je n'ai plus le temps d'attendre. Avant son tour, attends-la. Yeah. On s'évite, mais on s'aime. Et j'hésite à t'appeler tous les soirs. Yeah. Hey. Tous les soirs. Hey, ok, yeah.
C'était Ipendego avec le morceau Tous les soirs. Je me tourne naturellement vers la reine du R&B de ce podcast et organisatrice du futur événement Nectar le vendredi 9 juin à la Cité Fertile.
Ouais.
Alors, est-ce que tu peux déjà nous dire deux mots de cet événement
qui
arrive très très vite et puis nous donner ensuite bien sûr ton avis sur ce morceau?
Avec plaisir pour tout. Oui, alors Nectar, c'est une soirée R&B que j'organise à la Cité Fertile le 9 juin de 18h à minuit et demi. Et c'est que du R&B pendant toutes ces heures, ces longues heures. On va écouter que du R&B et je suis trop contente de l'avoir organisé et de surtout d'inviter aussi... 3 DJ, puisqu'il y a Zouz Machine qui sont un duo de DJ que j'aime trop, et Naomi Clément, aka Naomswell, qui est la reine du R&B,
la référence,
la réelle reine du R&B, puisqu'elle en parle depuis toujours. Et pour revenir à Ipendego, je trouve que c'est vraiment trop cool. Je suis désolée, je fais que des comparaisons aujourd'hui, mais forcément, on peut penser à des Franglish, à des Taiki, à des, tu vois, des petits mecs qui font des vibes et tout.
Ouais.
J'ai un peu ri à, malgré nos ébats, il y a toujours des tensions, comme des supporters de clubs en détention. Ça m'a fait rire.
Ça t'a fait rire.
Mais ouais, bah c'est cool, ça donne envie d'aller écouter la suite. Voilà, quoi, comme d'habitude. Bah,
je suis d'accord avec les petites comparaisons que tu fais, parce que je pense qu'un peu comme eux, ça va tout droit.
Oui.
Tu vois, c'est vraiment...
C'est clair et net.
Imparable.
C'est fait pour, quoi.
Ouais. Je trouve qu'il a en plus une sacrée voix. Tu le vois du coup sur les quelques lives que j'ai pu voir de lui, ça a l'air simple vraiment pour lui. D'ailleurs, il est tellement doué dans les vibes que c'est totalement le genre d'artiste qui te donne envie de chanter, de pousser la note, et c'est certainement pas ma voisine qui sera contente. Bon, elle a un chien qui aboie, moi je chante du R&B, un partout, balle au centre. Et non, plus sérieusement, pour revenir à l'EP, c'est... vraiment construit, je trouve, avec une belle dualité à tous les niveaux, que ça soit sur les textes qui chantent soit des grandes déclarations un peu lova-lova, comme on a pu entendre là, ou sinon des histoires de trahison et de tromperie assez crues. Voilà, hein, ça parle d'amour globalement, mais dans toutes ses formes. Et puis aussi musicalement, parce qu'on va avoir des morceaux R&B et puis des morceaux plus trap. Voilà, et puis il y a aussi, même dans les ambiances, je trouve qu'il peut y avoir un côté très ensoleillé, moi, qu'on peut trouver là, dont je trouve dans le morceau là, et qui pourrait me faire penser aussi à Blast, tu sais, que j'avais ramené l'année dernière dans les mêmes périodes d'ailleurs. Je pense que cet album va me suivre cet été. Et puis voilà, il y a des morceaux peut-être aussi un tout petit peu plus sombres. Sur le projet aussi, on retrouve un invité, à savoir Coelho, que certains, je pense, maintenant ont découvert à une échelle beaucoup plus grande grâce à une nouvelle école. Et ça fait la troisième fois qu'ils collaborent ensemble, la connexion nantaise. Et le morceau qu'on a écouté d'ailleurs est produit par le frère de Coelho, qui s'appelle Bedard, et qui, voilà, qui produit, je crois, quasiment tous les morceaux de Coelho.
Oui.
Et ils sont, je pense que les deux sont très liés. Et le tout, du coup, vient former un 7 titres que j'écoute en boucle. Il n'y a pas un morceau acheté, et le format, je trouvais parfait pour te donner envie de le remettre direct une fois que tu l'as fini. C'est vraiment ma petite pépite qui fait juste beaucoup de bien.
Très bien.
Et que j'écoute énormément en ce moment. Donc pour prolonger l'écoute, je vous recommande cet EP bien évidemment qui s'appelle Mocha. Je vous recommande aussi les deux autres morceaux du coup qu'il a sorti avec Coelho qui s'appelle Pour cette vie et Un peu de temps. Et si vous voulez avoir une interview assez chouette, je vous recommande le podcast Spread Love, réalisé par Grunt, et dans lequel il est interviewé par, alors j'ai pas le nom de l'animateur, je suis désolé à toi, mais pour tout, voilà, les amateurs de R&B, déjà je trouve que globalement le podcast est assez chouette, et là du coup on en apprend un peu plus sur Ipendego, sa manière de créer un peu les morceaux, et en plus je trouve que c'est quelqu'un qui parle assez bien, il est jeune, mais je sais pas, tu le sens assez mature dans sa parole, et même surtout vous l'écouterez dans le projet, où je trouve que c'est déjà très très solide.
Ok, chouette.
Voilà, on peut passer au son d'après.
Et pour ce dernier morceau, je vous disais tout à l'heure, je me suis attaquée à deux pontes de la musique. Je vais vous parler de la chanteuse et compositrice islandaise Björk, que vous connaissez probablement au moins de nom. Ces derniers mois, en fait, elle est revenue dans mon radar. Alors, j'ai des souvenirs d'avoir grandi avec ses albums dans mes oreilles via ma mère ou mes sœurs qui l'écoutaient quand j'étais plus petite. Et en septembre dernier, elle a sorti un album qui s'appelle Fossora. Alors, j'ai tenté une écoute sans grand succès, je dois avouer, parce que c'est un chouïa trop expérimental pour mes petites oreilles. Et puis, en fait, j'en parlais récemment avec le duo de DJ Disco Macroot que j'ai reçu dans mon autre émission qui s'appelle Contrefaçon, qui parle de musique remixée et tout. Et elles m'ont parlé d'un de ces morceaux de Björk remixé par le chanteur syrien Omar Suleiman. Et c'était trop cool. Le titre s'appelle Crystalline et c'est vraiment très chouette. Et du coup, ça m'est resté dans un coin de la tête depuis. Et récemment, en préparant les épisodes de l'été et du son d'après, wink wink, son nom est remonté à la surface et je me suis investie d'une mission, écouter et redécouvrir sa discographie. Alors bien sûr, j'ai pas eu le temps de tout écouter là pour l'instant parce qu'il y a quand même voilà, il y a quand même beaucoup de choses.
Ça fait plus de 20 albums, non, c'est ça. J'en vois là, non ?
Elle a 9 albums studio et après elle a fait plein de, d'albums de remix, et etc. etc. 9 ou 10 ou 11, 11 albums studio.
Pas mal, bon, en tout cas.
C'est déjà pas mal. Ouais. Et donc parmi tout ce que j'ai écouté, j'ai quand même un bel aperçu de son travail et surtout de ce qui me plaît avec mon regard d'adulte parce que j'avais des souvenirs plutôt enfantins de Björk. Alors rapidement, pour les personnes qui ne remettent pas Björk au cas où, c'est une chanteuse et productrice islandaise qui a commencé la musique très très tôt, genre elle a eu un premier album à 11 ans, mais passons. Adolescente, elle était très investie dans la scène musicale islandaise punk, elle a été dans plein de groupes différents, mais surtout de Sugar Cubes, et non pas de Sugar Babes, comme je l'ai vu la première fois, j'étais en mode quoi, elle était dans The Sugar Babes, ça n'existe pas,
je me souviens pas, oui.
Ce n'est pas possible, non, The Sugar Cubes, qui est un groupe du coup de punk rock, qui l'a emmenée un peu à l'international. Et au début des années 90, elle quitte le groupe pour se consacrer à sa carrière solo en déménageant à Londres où elle s'immerge dans la scène électronique de l'époque. Et son premier album solo sort en 93 et elle en a sorti depuis 10 autres, donc il y a de la matière. En plus de sa voix et de sa manière assez singulière de chanter, il y a beaucoup d'expérimentation dans sa musique, que ce soit au niveau des instruments organiques, elle kiffe les lives avec plein de musiciens sur scène, elle a fait beaucoup d'albums avec plein d'instruments à cordes, elle collabore beaucoup avec plein de gens, et elle a aussi travaillé avec uniquement les sons de la nature pour faire tout un album qui s'appelle Biophilia. Et puis, dans ses 2-3 derniers albums, elle collabore avec la productrice vénézuélienne Arca, qui est une artiste assez avant-gardiste, j'ai envie de dire. Donc c'est parfois un peu moins accessible que ses premiers albums, qui étaient peut-être un peu plus pop, j'ai envie de dire, tout simplement. Pop, ouais, c'est ça. Sans être pop au sens Harry Styles et Lizzo, tu vois. Je sais pas comment dire. Bref.
Plus facile d'accès,
ouais,
simplement.
Voilà, plus
facile
d'accès. Les deux albums qui m'ont particulièrement marqué dans toute cette réécoute, je vais être très basique ici, mais c'est son premier, Debut, qui est sorti en 93, et le suivant, Post. Avec mon regard d'adulte, en plus de redécouvrir des morceaux qui m'ont marqué et qui ont marqué sa carrière, que j'avais dans un coin de la tête, par exemple Human Behavior ou Army of Me qui ouvrent les deux albums, il y a quelque chose qui s'est ouvert dans ma vision de Björk. En fait, j'avais en tête beaucoup le côté trip-hop dont on parlait tout à l'heure, mais j'ai été assez surprise par des morceaux plus électroniques comme Big Time Sensuality que j'avais complètement oublié, ou encore There's More to Life Than This, qui est un titre assez bizarre, où, très années 90, où elle rentre dans des toilettes, enfin j'ai pas trop compris exactement, mais c'est assez fun et assez housey comme morceau. Et le titre que je vais vous passer, qui s'appelle I Miss You, sur l'album Post, que je vous propose d'écouter avant d'en parler.
Soon.
Björk, I Miss You, un titre grandiloquent.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui.
Ouais, c'est assez impressionnant.
Ouais, ça va, tu t'as, t'as bien aimé ?
Je suis très content que tu ramènes Björk parce que tu vois, c'est typiquement le genre d'artiste qui, comme je l'avais récemment dit avec Brian Eno, ouais, tu sais, c'était ce type de montagne que je savais pas par où aborder.
Ouais.
Je me suis dit tiens, la discographie est ouais, tellement grande. Et puis soyons honnêtes, j'avais vraiment cette image d'une artiste pas facile d'accès.
Ouais.
Donc il faut entre guillemets se pousser un peu aux fesses pour aller découvrir tout ça. Mais là, ce que tu m'as fait écouter, perso, j'ai kiffé. J'ai l'impression d'écouter en fait une musique sans concession. Il y a vraiment ce côté, je fais ce que je veux, et ça j'aime beaucoup. Puis voilà, cette variété musicale, la musique électronique, la samba, le jazz, Big Up aussi, je crois, une sorte d'accordéon, j'ai l'impression ouais, d'entendre. Enfin, c'est fou comme musique.
Ouais.
Il y en a de partout, et puis je parle même pas de sa voix qui est voilà, ça c'est Björk, quoi.
Ouais, voilà,
c'est ça, vraiment, c'est sa signature.
Waouh. Et bah écoute, je suis ravie que ça te plaise, parce qu'en fait, je pense que ça peut paraître assez étonnant comme choix pour parler de Björk, de choisir ce titre. J'aurais pu ramener des morceaux, tu vois, plus classiques de ce disque-là, par exemple,
ouais,
il y a It's Oh So Quiet ou Army of Me, dont je parlais tout à l'heure, qui sont les gros tubes de cet album-là, Post, sauf qu'en fait, je les connaissais déjà très bien, et ils m'ont moins marqué que ce titre-là, qui m'a surprise, et en fait, ouais, c'est ça, c'est... Mais que se passe-t-il dans ce morceau, quoi ? J'ai vraiment en mode, mais... C'est mi-électronique, cette espèce de boîte à rythme qui sonne tellement 90s au début, là, t'es vraiment en mode, on est dans les années 90, on ne peut pas faire mieux que ça pour être dans les années 90.
Ouais.
Et puis après, il y a plein de superpositions, tu t'attends pas, enfin les percussions quand elles arrivent, j'étais en mode, ah ok, d'accord. Et après, il y a la section de cuivre qui redonne une espèce de joie au morceau qui est trop cool, enfin genre, il y a vraiment trop de chouettes choses.
Et en plus, il y a plein d'ADN musicaux
ouais,
qui viennent se superposer ou se plus pas forcément d'ailleurs se superposer mais qui s'enchaînent les uns après les autres
ouais,
et en même temps alors je sais pas, je dirais pas que c'est cohérent mais il y a ça fonctionne,
non, ça fonctionne
quoi, il
ouais,
y a vraiment
contre,
un truc qui fonctionne ouais, à balle et c'est assez bluffant
ouais,
parce que ouais 95 ok ouais c'est intéressant
ouais,
de voir avec un peu de recul et il y a une ADN assez trip-hop, comme tu disais.
Oui, de toute manière, les premiers albums de Björk, il y a une ADN trip-hop, quoi qu'il arrive. Et en plus, là, ce qu'elle raconte sur ce morceau, c'est un morceau pour dire au mec de sa vie qu'elle n'a pas encore rencontré, « I miss you », tu vois. Et elle me... Tu sais, genre, quand t'écoutes les paroles de Björk, t'es en mode, elle est quand même un peu frappa. Mais
elle est perchée.
Un peu chez Père, mais... C'est pour ça qu'on l'aime aussi, tu vois. Et en fait, moi, ce qui m'a surpris là, à la réécoute, avec mon regard de maintenant, c'est vraiment les titres électroniques, un peu moins connus du grand public, sur lesquels je me suis arrêtée. Sur ce même album, il y a un titre qui s'appelle Enjoy, qui est hyper industriel, avec une rythmique un peu oppressive, vraiment genre, les drums, elles sont oppressives, et il y a des synthés giga sombres. T'es en mode, mais... Que se passe-t-il
ouais.
Quelle était la logique? Et tu sais, je parlais tout à l'heure de There's More to Life Than This, qui est donc un titre qui est très house, vraiment en termes de rythmique, c'est vraiment très house, c'est sur l'album d'avant qui s'appelle Debut, et il a été enregistré apparemment dans les toilettes d'un bar à Londres. Et il y a vraiment un côté encore très années 90 avec des sons de porte qui s'ouvrent et qui se ferment et qui créent
ah ouais,
des mini-interludes, tu sais, vraiment les clips MTV de l'époque où
ouais,
tu devais, il y avait
dire.
Des paroles qui cassaient la partie musicale, quoi. Et j'ai vraiment passé un très bon moment à réécouter cette discographie de Björk. Alors, bien sûr, j'ai pas tout écouté parce que j'avais pas le temps de tout écouter avant d'enregistrer ce podcast. Mais du coup, je me suis dit, ok, j'ai un peu cherché quels étaient, selon un peu différents critiques, les meilleurs albums, etc. Et donc, j'ai écouté un peu les principaux qui revenaient en mode, ça, c'est les bests. Alors, pour vous aider à plonger dans cette discographie
ouais,
un peu et à naviguer tranquillement sans aller dans les albums les plus expérimentaux tout de suite...
Ça m'intéresse.
Je vous dirais déjà d'aller écouter, bien sûr, son premier disque solo, Debut, qui a aussi les défauts d'un premier disque, du coup, qui va un peu partout, etc. Mais il y a des morceaux que vous connaissez déjà dessus. Donc ça, c'est un peu gagné, c'est-à-dire que... C'est ça. Ça s'ouvre sur un de ses plus gros titres qui s'appelle Human Behavior. Déjà, ça vous met un peu dans un truc de ça, c'est bon, c'est confortable, je connais. Derrière, vous pouvez écouter Post, du coup, cet album-là, d'où est extrait I Miss You. Et puis, on fait un petit bond dans sa carrière, un gros bond dans sa carrière. On va aller derrière écouter Vulnicura, qui date de 2015, qui est très très bien, bien que très sombre, car ça va vous faire une porte d'entrée vers les disques moins accessibles, sans être non plus trop difficile, je pense. C'est un disque de rupture, donc voilà, faut faire un peu attention aux lyrics, c'est chargé, parce que, en fait, en 2001, elle sortait Vespertine, qui était un album dédié à son amoureux du moment, qui est un de ses meilleurs albums de sa carrière, et en fait, cet album-là, Vulnicura, c'est la fin de cette relation. Et donc, du coup, il s'est passé 15 ans entre-temps, et donc c'est hyper intéressant, les critiques disent, en fait, c'est deux albums qui se répondent l'un et l'autre, qui sont tous les deux hyper bien. Et moi, j'avoue que j'ai trouvé ça chouette parce que vous allez entrer dans une autre era de Björk, ouais, où il y a beaucoup de... C'est beaucoup de voix, c'est très plein d'instruments à cordes, etc. Donc, je trouve ça très chouette. Et voilà, ça m'a fait plaisir de réécouter tout ça.
Et bah, trop bien. Là, effectivement, j'ai envie d'aller écouter là, déjà ces quatre albums que tu viens de nous citer, en tout cas pour avoir le.
Ouais.
C'est
a priori les plus. Il y a aussi oui. Homogénique, mais bon, bref, il y en a plein. Donc, du coup, je pouvais pas tous les citer. Donc voilà.
Tout à fait. Non, mais c'est bien. Il fallait une première base.
Exactement.
Et du coup, et ben, on va aller écouter ça avec grand plaisir.
Bah oui, je l'espère.
Bah.
Mais eh bien, on finit cet épisode alors.
Déjà.
C'est déjà la fin.
C'est déjà passé, c'était bien.
Ouais, c'était super.
Ouais, on a écouté de la bonne musique, je trouve encore.
Ouais, je suis d'accord. Putain, qu'est-ce qu'on a des bons goûts musicaux.
Ouais. Oh là là.
On se tape sur l'épaule gentiment.
C'est clair.
En tout cas, j'espère, chers auditeurs, auditrices, que ça vous a plu,
oui,
que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Les petites notes, je les refais pas, on les a fait au début.
Tout à fait.
Merci de nous écouter. Et nous, Clément, on se dit.
À dans deux semaines.